Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, ravi de vous accueillir pour ces deux heures d'infos, de débats et de points de vue. Et ce soir, on va revenir évidemment dans un instant dans le journal de Christophe Lamarre sur ce couvre-feu qui entre en vigueur ce soir à minuit dans 38 nouveaux départements et sur les premiers transferts de patients Covid. Sur les hommages aussi à Samuel Paty dans les mosquées de France en ce vendredi. À 18h20, je reçois le démographe Hervé Lebras, grand observateur de notre société, qui tord le cou à pas mal d'idées reçues sur le Covid, mais aussi sur l'immigration. Dans son dernier livre, Serons-nous submergés ? À partir de 18h30, avec les grandes voix, on reviendra aussi sur cette France sous couvre-feu et peut-être bientôt reconfinée. Associe-t-on suffisamment les Français à ces mesures ? Quid des libertés individuelles ? On parlera aussi des nouvelles mesures annoncées par Jean Castex après l'assassinat de Samuel Paty. Une meilleure surveillance, notamment des réseaux sociaux. Alors qu'avec la crise du Covid, les intentions d'embauche dans les entreprises privées sont en chute libre. 30 à 40% en moins pour les cadres. C'est énorme. C'est même pire que lors de toutes les crises de ces 30 dernières années. En pleine tempête, y a-t-il quand même des raisons d'espérer ? On en parle entre 19h15 et 20h dans le club des idées d'Europe 1. Mais avant cela, l'info avec le journal présenté par Christophe Lamarre. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Isabelle.
Il est 18h, vous écoutez Europe 1.
Ça fait très bizarre parce que c'est un département très reculé. Franchement, je me suis dit, on est loin, c'est un petit peu vers Paris là-bas. Et au final, ça me touche à nous bien plus qu'on ne le pensait, ouais.
À minuit, ils basculeront sous le régime du couvre-feu. 38 départements supplémentaires sont concernés, habitants des villes, habitants des champs. Personne ne pourra s'y soustraire.
Car l'épidémie atteint des seuils inquiétants. En Rhône-Alpes, les hôpitaux sont proches de la saturation. On transfère même les malades dans d'autres régions.
Nouveau conseil de défense consacré au terrorisme. Les réseaux sociaux sont dans le collimateur de l'exécutif.
Une semaine après l'attaque de Conflans-Sainte-Honorine, les imams de France rendent hommage au professeur Samuel Paty aujourd'hui.
Le droit à l'avortement pratiquement réduit à néant en Pologne. La justice déclare illégale l'IVG pour malformation du fœtus.
4 jours et 40 heures d'audition. Récit d'un face-à-face tendu entre Nicolas Sarkozy et ses juges dans l'affaire du supposé financement libyen de sa campagne électorale de 2007.
La bourse de Paris termine en hausse de 1,2% à 4909 points.
Et la tendance météo, bonsoir Anissa Adani.
Bonsoir Isabelle.
Attention aux fortes pluies ce soir.
Oui, nous avons un épisode très pluvieux. Là, de forts orages viennent de s'abattre sur la ville de Montpellier. Il a plu très fort. Et bien cette pluie, elle est en train de remonter. Elle va toucher l'est de la vallée du Rhône. Il pleut très fort jusqu'à un mois de pluie attendu en quelques heures. Je vais vous donner tous les détails de cet épisode à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Après minuit, ce ne sera plus permis. Le couvre-feu entrera en vigueur dans 38 nouveaux départements. On pensait que le virus se concentrait dans les métropoles. Eh bien, il touche aussi des régions plus reculées. C'est le cas de l'Ariège et notamment de la commune de Saverdin. À minuit, ce sera donc extinction des feux. Des habitants qui ne comprennent pas très bien ce qui leur arrive, Benjamin Péter.
Oui, parce que l'Ariège a été plutôt épargné jusqu'à présent, notamment ce printemps, et que désormais tous entendent parler autour d'eux de malades. Au Chiva, le centre hospitalier, 8 lits sur 12 de réanimation sont désormais occupés par des patients Covid. Et le taux d'incidence a dépassé les 270 dans le département. De quoi inquiéter Jonathan.
C'est tout nouveau pour nous, ouais. Ça fait très bizarre parce que c'est un département très reculé. Franchement, je me suis dit, on est loin, c'est un petit peu vers Paris là-bas. Et au final, ça me touche à nous bien plus qu'on ne le pensait. Ouais. Pourtant, on se lave les mains, on met le masque et tout, mais au final, ça ne suffit pas.
Alors lui a annulé sa soirée qui était prévue samedi. Au Bistrot des Arts, Sandra va également baisser le rideau pour les 6 prochaines semaines dès ce soir minuit. Mais elle s'attend à ce que ses clients aillent faire la fête dans le département voisin.
À 10 km de Saverdin, à Bellepêche, il n'y a pas de couvre-feu. Nous avons des jeunes qui auraient fréquenté ce bar avec des règles sanitaires précises, vont dès demain aller à Carcassonne, faire la fête, à 40 dans un appartement ou à 30, parce qu'il n'y a pas de couvre-feu dans l'Aude. Pour moi, ça n'a pas de sens.
Et comme elle, beaucoup auraient trouvé plus cohérent un couvre-feu national, voire un reconfinement pour éviter ces comportements et se débarrasser définitivement du virus.
Benjamin Péter, correspondant d'Europe 1 en Occitanie.
La situation sanitaire qui menace de submerger les hôpitaux, c'est déjà le cas d'ailleurs en région Auvergne-Rhône-Alpes.
On va le voir dans un instant, mais il faut rappeler ce chiffre pour fixer les choses. 27 000 cas positifs ont été enregistrés en moyenne sur les 7 derniers jours. Et dans certaines régions, les hôpitaux sont effectivement débordés ou pas loin de l'être. La situation ressemble à celle de mars, dit Santé publique France. C'est effectivement le cas en Auvergne-Rhône-Alpes. 8 patients vont donc être transférés dans des zones moins touchées, comme à Bordeaux, Stéphane Place.
Oui, des transferts opérés en fait cet après-midi en avion sanitaire avec l'appui des SAMU de la Loire et du Rhône, puisque ces patients arrivent de Lyon, Saint-Étienne et Villeurbanne pour être soignés ici en Nouvelle-Aquitaine, au CHU de Poitiers, à l'hôpital de Brive et au CHU de Bordeaux, où le docteur Catherine Fleurot, anesthésiste réanimateur, préside la commission médicale d'établissement.
Ce sont des patients qui sont intubés, ventilés sur des respirateurs. On a encore un petit peu de marge de manœuvre sur Bordeaux, en tout cas sur le CHU de Bordeaux, parce que c'est vrai qu'on a été jusqu'à présent impacté, mais de façon bien moins importante que ça n'a pu l'être dans les autres CHU. Donc on a un peu de marge de manœuvre pour accepter ces patients. Pas énorme, bien évidemment, parce que comme sur tous les CHU de France actuellement, c'est la période des infections saisonnières, la grippe, mais pas que, et donc c'est dans une période assez compliquée, mais c'est vrai qu'on avait un peu de marge de manœuvre contrairement à certains autres CHU.
Alors, marge de manœuvre limitée aussi par les hospitalisations qui avaient été, souvenez-vous, décalées au printemps dernier, qui ne peuvent plus attendre désormais avec des interventions, des soins que le CHU, ici comme ailleurs, doit réaliser cet automne.
Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 à Bordeaux.
Europe 1, il est 18h04, c'est la suite de votre journal. Et ce nouveau conseil de défense à l'Élysée aujourd'hui, avec une confirmation, Christophe, l'exécutif va bien renforcer son projet de loi contre les séparatismes.
Oui, 2 heures de réunion à l'Élysée. On se demandait si l'attentat de vendredi dernier allait déboucher sur une nouvelle loi. Non. En revanche, Adrien Beck, le gouvernement veut renforcer, ajouter quelques dispositions à son projet de loi contre les séparatismes.
Oui, des mesures en fait directement inspirées de l'attentat contre Samuel Paty et surtout en fait des jours qui ont précédé cet attentat. Jean Castex annonce par exemple la pénalisation de ceux qui feront pression contre des fonctionnaires et agents publics, comme ça a été le cas de certains parents d'élèves du collège du Bois d'Aulne. Et puis la deuxième mesure annoncée par le Premier ministre, la voici.
La possibilité de sanctionner ceux qui mettent en ligne des informations personnelles mettant en danger la vie d'autrui, comme par exemple un professeur.
Voilà, alors pour l'instant, on le comprend, ces mesures sont encore un peu imprécises, encore en construction. On ne s'en cache d'ailleurs pas au sein du gouvernement, mais il va falloir aller vite puisque le texte doit être présenté en Conseil des ministres le 9 décembre. Le Conseil de défense, en tout cas ce matin, a fait office pendant 2h30 de lieu de débat de toutes ces propositions. Elles ont été challengées, me dit un conseiller. Pour preuve, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, est même venu ce matin autour de la table avec son code pénal.
Merci à Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Une semaine, jour pour jour, après l'assassinat de Samuel Paty, les musulmans de France ont choisi de faire de ce jour de prière un jour d'hommage.
Un peu partout en France, les imams ont répondu à l'appel du recteur de la mosquée de Paris. Il avait demandé aux imams de consacrer leur prêche à la dénonciation du terrorisme islamiste. Message qui est parvenu évidemment jusqu'à la mosquée de Montfermeil. Reportage Caroline Baudry.
Installés sur leur tapis de prière, 250 fidèles sont réunis pour le prêche comme chaque vendredi. Mais aujourd'hui, il y a ces mots de l'imam. Il condamne avec la plus grande fermeté l'assassinat du professeur vendredi dernier.
Aucune religion ne saurait accepter une action aussi abominable. L'islam se désavoue de ces fanatiques barbares et assassins.
Face à lui, l'assemblée est très émue. Comme Karim, il est venu avec son fils et il tenait vraiment à exprimer sa peine aujourd'hui.
Les musulmans, nous sommes doublement meurtris. On perd une personne de notre famille. Cet acte-là a soi-disant été fait en notre nom. Je voudrais dire à la France entière et à tous ceux qui écoutent que nous y sommes pour rien, que nous regrettons cet acte. Nous sommes là en paix, l'islam veut dire paix. Et nous nous battrons et nous lutterons à vos côtés. Et ensemble, nous y arriverons.
Ici, les prêches se sont succédés dans l'après-midi avec, à chaque fois, ce message en hommage à Samuel Paty.
Le reportage pour Europe 1 de Caroline Baudry.
Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
Il est 18h09 et c'est la suite du journal de Christophe Lamarre avec 2 semaines après son audition. On en sait un peu plus aujourd'hui sur ce qu'a dit Nicolas Sarkozy dans le bureau des juges d'instruction.
Oui, l'ancien président a été entendu dans le cadre de l'enquête sur le supposé financement libyen de sa campagne pour la présidentielle de 2007. On rappelle qu'il est mis 4 fois en examen dans ce dossier. La dernière audition lui a d'ailleurs valu une mise en examen pour association de malfaiteurs. Et le moins que l'on puisse dire, Gladys Laffitte, c'est que Nicolas Sarkozy s'est montré particulièrement agacé.
Oui, bien agacé pendant ces 40 heures d'audition pendant lesquelles l'ancien président s'est défendu ardemment, parfois exaspéré et souvent excédé. Comment puis-je prouver quelque chose que je n'ai pas fait? C'est à devenir fou, à se taper la tête contre les murs. Ce que les juges veulent savoir, c'est si Nicolas Sarkozy a délibérément laissé ses proches et leurs intermédiaires officieux tenter d'obtenir et même obtenir de l'argent libyen pour financer sa campagne, montant estimé à plusieurs millions d'euros. Vous n'avez ni les preuves de l'arrivée, ni les preuves de la sortie concernant l'argent Où est l'argent alors ? Rétorque-t-il au magistrat. Au cœur de ce supposé pacte corruptif, les deux intermédiaires, Ziad Takieddine et Alexandre Djouri, en lien étroit avec Brice Hortefeux et Claude Guéant, lien dont Nicolas Sarkozy n'est pas informé, dit-il. Claude Guéant est-il crédule à ce point pour se faire rouler dans la farine pendant des années par Ziad Takieddine ? Demandent les juges. Réponse de l'ancien chef de l'État. Il faut bien le croire, hélas. Selon lui, ce n'est donc pas parce que son ex-bras droit a fait des erreurs, a manqué de discernement, je cite, que cela fait de Nicolas Sarkozy un corrompu.
Merci Gladys Lafitte du service police-justice d'Europe 1. Il est 18h10 et c'est un coup de tonnerre qui vient de se produire en Pologne. Le pays a pratiquement dit non à l'avortement.
Même si dans les textes, la pratique de l'interruption volontaire de grossesse reste autorisée, dans les faits, c'est vrai, cela risque d'être bien différent. La justice polonaise estime que l'avortement pour malformation grave du fœtus est illégal. Or, Hélène Terzian, cela représente 98% des IVG.
Oui, désormais, il ne sera possible d'avorter que dans deux cas, en cas de viol, d'inceste, ou bien si la grossesse présente un risque pour la santé de la mère. En Pologne, lorsque les avortements étaient autorisés en cas de malformation du fœtus, les IVG légales étaient déjà extrêmement rares. L'an dernier, il n'y en a eu qu'un peu plus de 1000 recensés dans le pays. En revanche, le nombre d'avortements clandestins est lui très important. Près de 200 000 sont pratiqués chaque année. Une femme qui veut avorter le fera de toute façon, selon la directrice du planning familial en Pologne. Cette restriction met encore plus en danger les femmes, selon Christina Katspura.
Les conditions sanitaires dans lesquelles elles vont avorter dépendent de leur portefeuille. Si elles ont de l'argent, elles peuvent aller à l'étranger et avorter en sécurité. Mais sinon, elles le feront dans des conditions dangereuses. Et on a peur pour la santé et surtout pour la vie de ces femmes en Pologne.
Et dès hier, des groupes de femmes sont descendues dans la rue un peu partout dans le pays pour protester contre cette mesure. Certaines se sont fait arrêter. Dans une Pologne très catholique, les derniers sondages montraient qu'il n'y avait que 10% des habitants favorables à une nouvelle restriction du droit à l'avortement.
Merci Hélène Terzian.
Donald Trump annonce ce soir qu'il va retirer le Soudan de la liste des États soutenant le terrorisme.
Le président américain a informé le Congrès de sa volonté de revenir formellement sur la désignation du Soudan comme État parrain du terrorisme. C'est ce que fait savoir ce soir la Maison-Blanche, un geste qui intervient au moment où les spéculations se multiplient autour d'une possible normalisation des rapports entre les autorités soudanaises et israéliennes.
Et puis Christophe, on a tous encore ces tubes en tête. Il a disparu il y a 34 ans. Un titre inédit de Daniel Balavoine va sortir dans les bacs.
Oui, le chanteur est mort en 1986 dans un accident d'hélicoptère sur le Paris-Dakar. Le morceau s'appelle « J'étais devenu un homme », extrait.
Elle voulait que je sois un homme, toujours prêt au combat. Tiens tes bras, protège-toi, le quitte pas. Sa garde baissera jusqu'à mort ou c'est tout comme.
J'étais devenu un homme aurait dû faire partie de son deuxième album Les Aventures de Simon et Gunther, mais la chanson n'a pas été retenue, figurez-vous, et elle s'est un peu perdue après dans les tiroirs. Ce nouveau morceau annonce en fait la sortie d'un coffret de Daniel Balavoine le 4 décembre.
Daniel Balavoine dans le journal de Christophe Lamar que l'on retrouve à 18h30 pour le rappel des titres de l'info. La tendance météo, on vous retrouve Anissa Haddadi et c'est important parce qu'en ce moment, des pluies soutenues s'abattent sur la vallée du Rhône.
Oui, c'est un épisode effectivement qui était prévu mais qui est quand même assez fort et qui devrait durer jusqu'à 22h. Alors il concerne le Rhône, la Drôme, l'Isère, les Deux-Savoie et la Haute-Savoie. Donc vous le voyez, c'est sur l'est de la ville de Lyon. Actuellement, il pleut de Valence à Chambéry jusqu'à Thonon-les-Bains. Des pluies, vous le disiez, soutenues, Isabelle, accompagnées de coups de tonnerre et des pluies qui pourraient représenter 2 semaines à 1 mois de pluie en seulement quelques heures. Alors soyez prudents si vous êtes sur la route parce que les vidéos que nous voyons actuellement sur Twitter ou sur les sites spécialisés sont des vidéos de gens qui sont en train de se retrouver en difficulté sur les autoroutes et les routes secondaires. Alors pour parler de demain, là nous aurons deux temps. Le week-end va commencer avec deux temps bien différents. Sur la moitié nord du pays, le ciel restera couvert toute la journée avec des averses et du vent. Le vent qui le matin souffle sur les côtes mais qui va s'engouffrer dans les terres l'après-midi. Et puis alors sur la moitié sud, d'abord au bord de la Méditerranée, beaucoup de soleil. Et puis ensuite le soleil va remonter jusqu'en Auvergne et c'est toute la moitié sud qui va vivre un bel après-midi. Les températures, elles baissent légèrement demain matin, 7 à 15 degrés. Et au meilleur de la journée, 15 à 22. 15 à Charleville-Mézières, 17 à Besançon et Saint-Etienne, 18 pour Paris, 21 à Nice et 22 à Nîmes.
Merci Anissa, on va vous retrouver tout à l'heure pour un nouveau point météo. Vous suivez de très près la situation
bien
actuellement
sûr.
Sur la vallée du Rhône et vous aviez raison de le dire tout à l'heure. Attention si vous êtes en voiture, d'autant que ce sont les départs en vacances pour certains d'entre vous. Merci Anissa.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant sur Europe 1, je reçois le démographe Hervé Lebras qui publie « Serons-nous submergés ?». Il a étudié à la loupe notre société et il tord le cou. Vous allez l'entendre à pas mal d'idées reçues. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
Il est 18h19, merci à vous d'écouter Europe 1. Vous le savez, c'est l'heure maintenant de l'invité d'Europe Soir. Et je reçois ce soir un homme qui a l'habitude d'observer à la loupe notre société, le démographe Hervé Lebras. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, auteur de plusieurs ouvrages. Et le dernier en date, qui vient tout juste de sortir, a un titre qui forcément nous interpelle. Serons-nous submergés? Alors c'est un livre qui est totalement d'actualité. Il y a deux parties. D'abord l'épidémie de Covid, et ça on est plus que jamais en plein dedans, cette vague épidémique, et puis une autre vague, celle de l'immigration. Pourquoi Hervé Lebras les avoir unies dans un même ouvrage? Est-ce qu'elles ont un point commun?
Il y a à la fois des points communs et puis de très grosses différences, bien sûr. Mais le point commun, c'est que l'une et l'autre fonctionnent sur des rapports, je dirais pas sociaux justement, mais des rapports humains, de personne à personne. On le voit de trop pour le Covid, c'est parce que il y a des rapports humains trop rapprochés que l'épidémie progresse, que la contagion s'accentue. Et de la même manière, l'émigration fonctionne sur font ce qu'on appelle des réseaux, c'est-à-dire que les personnes ne migrent pas comme ça à l'aventure, ou du moins très peu d'entre elles. La plupart migrent pour rejoindre des personnes qu'elles connaissent ou pour rejoindre des groupes qu'elles connaissent. Donc il y a des très grosses différences. Par exemple, dans un des chapitres, j'étudie l'Afrique. Selon le pays d'Afrique qu'on considère, il n'y a pratiquement pas de migrants qui viennent de ce pays, même si la population augmente rapidement, parce qu'ils n'ont pas de point d'attache. Et puis il y a d'autres pays, par exemple le Mali ou le Sénégal, où là, les points d'attache sont nombreux, donc la famille, les amis constituent un milieu d'accueil et des migrations
et
se développent.
À ces déplacements, effectivement. Pour ce qui est du Covid, vous démontez point par point pas mal d'idées reçues, je trouve. Notamment quand vous évoquez l'épidémie et son terrain social, vous dites que finalement, le Covid n'a pas vraiment de rapport avec le terrain social.
Oui, absolument. Je pense que c'est assez important. C'est-à-dire que le Covid, c'est un tout petit animalcule qui n'est pas capable de distinguer un pauvre d'un riche ou bien un immigré d'un non-immigré. Il va au plus proche. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est la manière dont il progresse et la manière dont les contacts s'opèrent. Et ces contacts-là sont indépendants au début de la profession ou de l'état des personnes.
Mais alors, comment est-ce qu'on explique qu'une ville comme Roubaix, par exemple, dont on a beaucoup parlé hier dans l'actualité, ville la plus pauvre de France, ville jeune, qui est aussi l'une des plus touchées par ce Covid, avec 1135 cas pour 100 000 habitants?
Oui, mais on peut trouver d'autres villes qui sont très très peu touchées encore actuellement. Si vous allez, je n'ai pas en tête exactement les chiffres, mais si vous allez par exemple à Saint-Nazaire, c'est une ville qui est plutôt une ville ouvrière, qui est très peu touchée. Ce qui compte, c'est le fait que ce qu'on appelle des clusters puissent se développer un peu trop rapidement. Donc, ce qui s'était passé pendant la première vague, c'est que le cluster qui était à Mulhouse et puis celui qui était au nord de la région parisienne
se sont développés
un peu sous les radars avant qu'on s'en rende vraiment compte. Alors à ce moment-là, il y a une sorte d'explosion. C'est aussi ce qui est en train de se produire, pas simplement à Roubaix, apparemment à Saint-Étienne et
dans
certain nombre
de
villes. Mais le problème est justement qu'une fois que c'est arrivé dans un de ces endroits, alors là, c'est très sélectif socialement. On sait d'ailleurs, c'est la même chose en Angleterre et aux États-Unis, que les immigrés sont trois fois plus touchés, que les personnes assez pauvres sont aussi nettement plus touchées. Mais c'est inévitable parce que c'est elles qui sont le plus en contact avec le virus. Les livreurs, c'est assez souvent des immigrés, des gens qui n'ont pas énormément d'argent. Les caissières sont souvent des familles assez pauvres. Donc, Une fois que l'épidémie s'est installée, là, elle devient très sélective socialement. Mais oui, elle n'est pas, c'est pas le fait d'être pauvre qui va vous rendre plus susceptible d'être malade.
On a vu aussi hier, lors des annonces du Premier ministre, qu'il n'y a plus désormais que les grandes métropoles qui sont touchées, les zones rurales également. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément d'influence de la démographie. Vous y consacrez là aussi tout un chapitre.
Oui, tout à fait. Le problème est l'endroit où les patients 0 ou 1, si vous voulez, arrivent. Quand, dans la première vague, par exemple, vous avez eu un foyer qui s'est développé à Auray, ou à côté d'Auray, c'était une petite ville. En Savoie, c'est une toute petite commune qui a été atteinte. Mais heureusement, dans ces cas-là, on a pu circonscrire ces petits foyers parce qu'on les a pris à temps. Mais ils peuvent arriver partout. Quand j'ai pris souvent la comparaison, par exemple, entre même la Seine-Saint-Denis, qui est le département le plus pauvre de France, et son voisin dans la première partie de l'épidémie, qui est les Hauts-de-Seine, qui au contraire est le plus riche de France, la mortalité a été pratiquement la même dans les deux.
Ouais, c'est intéressant. Vous écrivez, pour en revenir au rapprochement que vous faites dans ce livre entre l'épidémie et l'immigration, vous dites que ce rapprochement, il est inévitable et dérangeant parce que dans les deux cas, des agents extérieurs arrivent et se distribuent sur le territoire. Hein, c'est ce que vous nous expliquiez un peu tout à l'heure. Et là aussi, vous essayez toujours de casser les préjugés. Par exemple, on dit souvent que le pourcentage d'immigrés est particulièrement important chez les ouvriers, ce qui laisse à penser que la concentration des immigrés dans un département devrait être plus ou moins proportionnelle à celle des ouvriers. Et là encore, vous répondez, ben non, c'est pas vrai.
Non, justement, parce que pour ce que j'ai indiqué au début sur le fait que les étrangers rejoignent d'autres étrangers, donc la répartition des étrangers, donc des immigrés ensuite, n'a pratiquement pas varié en France depuis très longtemps. C'est à peu près dans les mêmes régions et les contrastes sont très grands. Dans l'exemple que vous citez, si on prend le département où il est le plus forte proportion d'ouvriers est immigrés, c'est la Seine-Saint-Denis. Il y a 54% des ouvriers sont immigrés. Mais vous allez vers l'ouest, dans la Manche, vous tombez sur seulement 2% d'ouvriers qui sont immigrés. Donc le statut, au fond, qui fait penser que les ouvriers sont très, très souvent des immigrés, c'est vrai si on est en Seine-Saint-Denis, c'est complètement faux si on est à l'ouest.
Alors, la dernière partie de votre livre est un peu plus politique puisque vous posez des questions sur ce qui pousse les Français à aller vers l'extrême droite. Et pour cela, vous comparez les lieux de résidence des immigrés et les lieux de résidence de ceux qui se plaignent des migrations et qui veulent les stopper. Et là aussi, vos conclusions, Hervé Lebras, sont quand même surprenantes.
Oui, elles sont surprenantes, mais elles sont, si je puis dire, factuelles.
Par exemple, vous citez le Pas-de-Calais, où Marine Le Pen a fait son deuxième plus grand score en 2017. Et c'est, dites-vous, l'un des trois départements où la proportion d'immigrés est la plus petite.
Oui, alors ce n'est pas du tout une opinion. C'est-à-dire, vous allez sur le site de l'INSEE, vous regardez les proportions d'immigrés par département, puis vous allez sur le site du gouvernement, vous regardez la proportion de vote en faveur de Marine Le Pen. Et vous voyez que les deux distributions ne se correspondent absolument pas. Il y a des cas où, si vous voulez, il y a à la fois des immigrés et des votes Front National, mais il y a les autres cas possibles où il y a peu d'immigrés et fort vote du Front National. Et puis,
oui, parce que si on juxtapose une carte des votes FN et de la proportion d'immigrés, on ne peut pas établir de relation directe,
en fait. Non, il n'y a pas de relation. Il faut voir qu'au début, il y avait une relation et elle s'est progressivement défaite. En 1984, qui est le premier vote où le FN apparaît en force, là, la relation existait en partie. Mais à cette époque, le FN était beaucoup plus urbain que rural. Et ça s'est progressivement inversé. Je montre dans le livre que désormais, les différences sont énormes entre la proportion de vote pour le FN dans les grandes communes urbaines. On tombe même à Paris, juste au-dessous de 5% à la dernière présidence. Enfin, au premier tour de la dernière présidentielle, et les campagnes, les petites communes, où là, on monte maintenant à plus de 30%, et les villes intermédiaires sont dans les 15-20%. Donc il y a une graduation qui est assez curieuse, qui fait que désormais, le vote FN est en dehors des villes, alors que les immigrés, eux, sont beaucoup plus au voisinage ou au centre des villes.
Merci beaucoup Hervé Lebras, je conseille en tout cas la lecture de votre livre. Serons-nous submergés aux éditions de l'Aube avec la Fondation Jean Jaurès? Merci d'être venu ce soir en direct sur Europe 1.
Eh ben, merci beaucoup de m'avoir fait signe.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Mieux.
18h31 sur Europe 1, c'est l'heure du rappel des titres avec vous, Christophe Lamarre.
Prudence, si vous êtes en région Rhône-Alpes, de fortes pluies sont signalées à l'est de Lyon, dans les secteurs de Valence, jusqu'à
Chambéry. Cet épisode devrait durer jusqu'à 22h ce soir. Plus de détails à la fin de ce rappel de titre avec Anissa Haddadi. Plus que quelques heures avant le passage au régime du couvre-feu, ce soir à minuit, 38 départements supplémentaires passeront en mode semi-confinement, interdiction de sortir entre 21h et 6h du matin. Le Parlement européen adopte à une large majorité la prochaine PAC, la politique agricole commune. Les obligations environnementales seront renforcées pour les agriculteurs, mais certains eurodéputés et les ONG les jugent bien trop timides. Il y a peut-être du monde en cette veille de week-end et de départ en vacances de la Toussaint. On regarde vos conditions de circulation sur la route.
Le radioguidage sur Europe 1 avec les opticiens Atoll pour être sûr de bien voir aussi la nuit au volant.
On fait un point sur la circulation avec vous, Laura Taouchanoff. Comment se présentent les choses sur les routes?
Alors ça devient très compliqué sur la 6 entre Chalon-sur-Saône et Tournus à cause d'un accident dans le sens Lyon-Paris. Trafic dense aussi sur l'autoroute A1 entre Lille et Hénin-Beaumont. Ça coince aussi en Alsace à cause d'une collision entre trois véhicules sur l'autoroute A351. Dans le sens Strasbourg-Saverne, en Ile-de-France, beaucoup de départs en vacances. Là aussi, la soirée est classée orange. Le trafic est dense au niveau du péage de Fleury. 13 km de ralentissement aussi sur l'autoroute A13 entre Orgeval et Mantes-la-Jolie. Et puis, vous l'avez dit, attention aux pluies violentes. Elles rallongent votre temps de parcours à la frontière espagnole entre Tarbes, sur l'autoroute A64 et puis entre Lyon et Orange sur l'A7 où vous circulez d'ailleurs de plus en plus mal jusqu'à Aix-en-Provence.
Merci Laura Taouchanoff, on fait un nouveau point sur la circulation avec vous à 19h.
Et l'info revient avec vous Christophe Lamar, effectivement à 19h. Anissa Haddadi, je me retourne vers vous puisqu'on vient de l'entendre, hein, aussi bien sur la route que dans le ciel, ça s'annonce très compliqué dans l'Est. Hein.
Oui, en fait cet après-midi, en fin d'après-midi, l'Hérault et le Gard ont été touchés par des orages violents accompagnés de grêles, notamment sur le nord de Montpellier. En fait, c'est une ligne orageuse qui est en train de se mettre en place et qui touche actuellement Avignon, Orange, Grenoble, Chambéry, Aix-les-Bains, Thonon-les-Bains et jusqu'à Besançon. Donc une ligne assez dense et sur cette ligne orageuse, les pluies sont très soutenues, très violentes puisqu'on attend d'ici 22h un mois de pluie, donc des cumuls, on le disait, assez forts et surtout de forts ruissellements sont attendus, donc c'est là qu'il va falloir être prudent, surtout sur la route. Demain, sur la moitié nord du pays, le ciel sera couvert avec des averses et du vent, et sur la moitié sud, c'est donc une France coupée en deux, du soleil qui brille déjà très généreusement sur le bord de la Méditerranée le matin et des températures, elles sont stationnaires quasiment les mêmes qu'aujourd'hui.
Et on fait un nouveau point avec vous dans moins d'une demi-heure, Anissa, merci.
Europe 1, Isabelle Millet.
Il est 18h34, merci à vous de nous écouter. Comme chaque soir, vous savez, on ouvre maintenant notre débat des grandes voix. Avec ce soir à mes côtés, Anne Fulda, journaliste au Figaro, Emmanuel Ducrot du service économie du journal L'Opinion et Virginie Leguet, chef adjointe du service politique de Paris Match. Bonsoir à toutes les trois.
Bonsoir.
Que des femmes autour de cette table, je suis ravie. Je voudrais qu'on revienne d'abord, si vous le voulez bien, sur ce conseil de défense qui s'est tenu aujourd'hui à l'Élysée, consacré au terrorisme, une semaine tout juste après l'assassinat de Samuel Paty. La lutte contre l'islamisme, priorité du gouvernement, on le sait, après le drame de vendredi dernier. On attendait donc des mesures fortes. C'est Jean Castex qui a pris la parole et voici ce qu'il a annoncé.
Le Conseil a d'ores et déjà décidé de compléter le projet de loi de deux nouvelles dispositions. D'une part, le renforcement de la protection des fonctionnaires et des agents publics en pénalisant ceux qui font pression sur eux et sur le fonctionnement des services publics. Deuxièmement, la surveillance des réseaux sociaux et la lutte contre la haine en ligne seront intensifiées. La plateforme Pharos sera renforcée sans délai en termes d'effectifs et un pôle spécialisé au sein du parquet de Paris sera créé pour centraliser les poursuites et donc en améliorer l'efficacité.
Voilà ce que disait Jean Castex à la mi-journée à l'issue d'un conseil de défense. Des réponses concrètes et rapides, c'était pourtant la promesse d'Emmanuel Macron. À ces deux mots, place aux actes. Et finalement, ben on vient de l'entendre, tout ça pour ça, les grandes voix. Emmanuel Ducrot.
Tout ça pour ça, enfin, les deux annonces qui sont faites, le renforcement de Pharos et la création d'un parquet spécialisé, ce sont des réponses qui sont intéressantes parce que ce sont deux petits trous qu'il y avait dans notre arsenal de réponses. Pharos, c'est 40 personnes à peu près qui travaillent jusqu'à 19h, parce que ce sont des gens qui travaillent ici en France. 300 000 signalements par an à traiter, c'est vraiment énorme. Et ce parquet numérique, c'est quelque chose qui n'existait pas et qu'on peut rapprocher du parquet financier. Donc il y aura des magistrats qui seront très spécialisés sur la réponse. Et ça, ce sont des choses intéressantes. Pour le reste, on a quand même toujours un énorme manque de moyens face à la haine en ligne.
Qu'est-ce que vous en pensez, Anne Fulda? C'est un peu déceptif, ces annonces du Premier ministre. Est-ce qu'on n'attendait pas qu'il tape plus fort?
C'est déjà un début d'action, de prise de conscience, parce que c'est vrai qu'il y a une forme d'impunité numérique qu'on connaît depuis longtemps. On l'a dit, c'est vrai, concernant l'assassinat de Samuel Paty. On a vu que, effectivement, ça a été dit, Gabriel Attal l'a dit, mais il a raison, ça a commencé sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire l'information selon laquelle il aurait heurté les croyants a été diffusé sur les réseaux sociaux et alimenté et déformé sur les réseaux sociaux. Et à la fin, tout à la fin du processus, c'est vrai qu'une fois son crime commis, son horrible crime commis, il a mis les images sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui encore, il y a des commentaires et des personnes qui approuvent ce geste sur les réseaux sociaux. Donc, il y a quelque chose à faire, c'est évident. Après, la tâche est immense.
Et puis on a assez peu de détails finalement, on ne sait pas combien de personnes vont être embauchées pour venir renforcer ces services et cette fameuse cellule. Emmanuel Ducrot nous le disait, hein, c'est intéressant, mais est-ce que ce n'est pas quand même un petit peu insuffisant par rapport à ce qu'on entendait quand on a écouté les mots d'Emmanuel Macron lors de l'hommage à la Sorbonne?
Moi je serais un peu plus Virginie sévère Leguay. Que mes camarades. Je trouve que l'intervention de M. Castex a été aussi courte que ses propositions. Renforcer la plateforme Pharos, oui, elle fonctionne déjà avec un très petit nombre de fonctionnaires. Elle a beaucoup de signalements. Elle a d'ailleurs reçu des signalements dans le cadre de cette affaire et notamment, elle avait été saisie des messages qui soutenaient l'action de l'assaillant.
Et ça n'a pas empêché le passage à l'acte.
Et je rappelle qu'il y a eu la loi Avia au mois de juin qui était justement destinée à lutter contre la haine en ligne. Donc c'était l'objet exact de ce qui nous occupe aujourd'hui et qu'elle a été quasiment totalement censurée par le Conseil constitutionnel. Donc moi, je veux bien qu'on renforce la plateforme Pharos. Ça veut dire probablement mettre plus de fonctionnaires qui vont se retrouver un peu plus nombreux dans un petit bureau. Est-ce qu'ils seront pour autant plus efficaces? Je ne sais pas. Je m'interroge, moi, sur cette inflation de petites mesures qui s'ajoutent à cette inflation législative. Il y a déjà beaucoup de lois à chaque fois qu'il y a un nouvel attentat sur notre sol. On réfléchit à une nouvelle loi. Il y a déjà énormément de lois. Est-ce qu'il ne suffirait pas déjà de les appliquer et de les appliquer sévèrement? Quand Jean Castex dit oui, on va protéger ceux qui seront soumis, nos fonctionnaires de pression, moi j'ai envie de les dire, écoutez, commencez déjà par les soutenir, les propres fonctionnaires. Commencez déjà par demander à la hiérarchie, en l'occurrence de l'éducation nationale, de soutenir les enseignants qui se plaignent de recevoir des menaces, des insultes. Commencez déjà par les soutenir plutôt que de dire on va protéger ceux qui vous attaquent. Commencez déjà par les rendre très solides dans l'institution. Commencez par solidifier toute la hiérarchie de l'institution de l'éducation nationale. Peut-être qu'après ça, on y verra un peu plus clair.
Donc, si je résume ce que vous nous avez dit toutes les trois, c'est annonce intéressante mais insuffisante, un peu qui tranche hein, avec le discours d'Emmanuel Macron. Et puis, il y a eu ce Conseil de défense, on en attendait beaucoup.
Qui a duré
3h30. Le Premier ministre est sorti, il a pris la parole, entouré de son ministre de la Justice et de son ministre de l'Intérieur. Tout ça pour ça. Merci en tout cas. On poursuit ce débat dans un tout petit instant ensemble, les Grandes Voix sur Europe 1.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Mieux.
18h42 sur Europe 1, c'est la suite du débat des Grandes Voix avec ce soir toujours à mes côtés Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion, Virginie Leguay, chef adjointe du service politique de Paris Match et Anne Fulda du Figaro. Alors 46 millions de Français seront sous couvre-feu à partir de ce soir minuit. On va encore franchir un nouveau cap et ça n'est sans doute pas fini. Le Premier ministre a prévenu hier face à ce paquebot du Covid qu'on n'arrive pas à stopper ni même à ralentir. Il faudra peut-être encore durcir les mesures. L'hypothèse d'un reconfinement se profile. Avec dans la foulée cette question, fallait-il associer les citoyens à ces décisions qui engagent finalement toute la société et qui l'impactent énormément? Écoutez les Grandes Voix, ce que disait François Ruffin, le député de la France Insoumise, la semaine dernière lors de la mise en place des premiers couvre-feux.
Au moment où il y a un couvre-feu qui est mis à 9h05, les gens ne pourront plus sortir de chez eux. On n'a aucun lieu pour discuter de tout ça. Personne n'est venu présenter ces mesures devant l'Assemblée. Alors que là, il y a un choix de porter atteinte aux libertés publiques et aux libertés en général. Ces mesures, on peut être pour ou contre. On peut les contester ou les approuver. Mais on n'a pas de lieu pour ça.
Il a raison, François Ruffin, les Grandes Voix. Alors attention, il ne dit pas qu'il est contre le couvre-feu. Il est contre le fait de ne pas avoir été associé à cette prise de décision. Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais qu'on est dans un arbitrage.
Emmanuel Ducrot.
On est dans un arbitrage entre les libertés individuelles, l'intérêt général. Ça se traduit là une dégradation de la protection de la vie privée, une suspension d'un certain nombre de procédures démocratiques, une délégation aux experts. Et la question, c'est jusqu'à quand Est-ce que la population accepte ça? Alors, on a publié aujourd'hui, nous, les résultats d'un sondage qui a été mené par l'Université d'Harvard et qui est très intéressant dans 15 pays. Et 340 000 personnes ont été sondées dans le monde. Et on se rend compte que, pour l'instant, l'acceptation de ces mesures et de cette privation de liberté individuelle est assez forte. Plus de 80% des gens qui ont été sondés dans les 15 pays acceptent ça parce que l'urgence sanitaire et le risque sont là. Ça va quand même avec un certain nombre de corollaires. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Il faut que ça soit borné dans le temps. Il faut que ce soit efficace, parce que si ça ne marche pas, ça devient totalement inacceptable. Et il faut aussi que ça ne concerne pas toutes les libertés individuelles. Par exemple, on l'a vu en France, la question des données personnelles liées à l'application Stop Covid, c'était très sensible. Il ne faut pas que ça touche la liberté de la presse. C'est une chose que les gens mettent aussi en avant dans ce débat. Et il ne faut pas que ça touche les élections. Et là, on en arrivera probablement au débat sur les régionales. Mais voilà, il faut que tout ça soit quand même borné. Les gens veulent bien abandonner une partie de leurs libertés individuelles, mais avec des limites dans le temps.
Donc,
et dans l'espace.
Là, vous nous parlez de la population française, mais au niveau de la classe politique, l'opposition dit qu'elle n'est jamais associée aux prises de décision. Est-ce qu'il n'y a pas un déni de démocratie quand un homme seul peut décider d'un couvre-feu pour 60% de la population sans en discuter avec le Parlement ? Anne Fulda.
Un déni de démocratie, c'est peut-être un peu fort. C'est sûr qu'on est dans une situation exceptionnelle. On est dans un état d'urgence sanitaire. C'est vrai qu'il pourrait y avoir peut-être plus d'associations, mais enfin, il n'y a pas beaucoup de temps à perdre aussi.
Pas de temps pour un débat parlementaire,
par
exemple.
Moi, ce qui pose toujours problème, on revient, effectivement, c'est des mesures exceptionnelles qui sont prises. Ce qui interroge, c'est peut-être le manque de cohérence, je le disais déjà la semaine dernière, mais ça n'a pas tellement changé. C'est-à-dire qu'elles sont acceptables tant qu'effectivement, on a l'impression qu'elles servent l'intérêt général et qu'elles sont acceptables. Mais il y a un moment où il faut qu'elle semble reliée par une vraie cohérence, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. C'est-à-dire, on peut se demander pourquoi, comme s'est interrogé Philippe Bas, le sénateur Philippe Bas, il y a peu de temps, pourquoi, soi-disant, le virus circulerait plus de nuit. C'est-à-dire qu'on interdise des réunions de nuit ou à partir d'une certaine heure, oui, qu'on puisse plus circuler, alors qu'on peut circuler, prendre les transports en public de jour. C'est vrai que c'est peu compréhensible.
Vous êtes d'accord avec ça, Virginie Le Guay ?
Moi, je suis d'accord avec l'idée que comme on est dans un état d'urgence sanitaire, il y a des mesures exceptionnelles qui sont prises. Je rappelle à l'opposition qu'elle n'est que l'opposition. C'est très injuste, c'est terrible, mais il y a un gouvernement, il y a un exécutif qui sont là pour prendre des décisions. C'est comme ça dans un pays. Il y a une élection présidentielle qui a choisi un président de la République qui lui-même a nommé un gouvernement. Ça fonctionne comme ça.
Mais la démocratie, c'est aussi d'écouter l'opposition.
Oui, sans doute, mais vous vous rendez compte si l'exécutif devait associer toutes les oppositions à toutes les décisions du pays, ça serait proprement ingérable. C'est pas comme ça que ça marche dans notre pays. Je comprends que l'opposition se sente frustrée. Je rappelle que l'opposition, quand elle est associée, dit qu'elle n'est pas assez associée. Là, elle dit qu'elle n'est pas du tout associée. Bon, en fait, l'opposition, elle est rarement contente, mais c'est son rôle, c'est son travail. C'est normal, elle est toujours là pour être mécontente. Simplement, je crois que plutôt que de créer des formes de frustration et de mécontentement dans la population, il y a comme un devoir civique qui consisterait à dire bon, écoutez, là, la situation devient franchement problématique. On va vous demander effectivement de rogner sur vos libertés individuelles. Vous allez devoir rentrer chez vous à 9h et rester, limiter votre bulle sociale. Enfin, tout ça n'est pas très amusant, ça va durer très très longtemps. Mais nous, on comprend que le danger de cette pandémie, les mesures sanitaires priment sur le reste et il y a plutôt une unité politique qui se crée autour des décisions. Mais les contester sans arrêt ne sert qu'à alimenter les divisions du pays, qui sont déjà très fortes.
Merci Virginie Le Guay. On poursuit ce débat dans un tout petit instant sur Europe 1. Restez avec nous.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
Il est 18h50 et c'est la suite de votre débat des grandes voix sur Europe 1. Je voudrais qu'on revienne avec vous, mesdames, puisque nous sommes en compagnie féminine ce soir, sur ces mesures sanitaires qui sont distillées finalement au cas par cas, enfin au coup par coup plutôt par l'exécutif. Emmanuel Macron nous a dit qu'a priori le couvre-feu devrait durer 6 semaines. Hier, on a compris entre les lignes qu'un reconfinement, en tout cas partiel, local, n'était pas exclu. Est-ce que finalement, il n'y a pas une espèce de peur d'aller au reconfinement parce qu'on a un peu raté le premier déconfinement? Est-ce que ce n'est pas ça le problème? Si on n'avait pas fait ce premier confinement, est-ce que finalement, là, on n'irait pas plus franco?
Oh, je ne sais pas si c'est lié à ça. Je pense que c'est surtout lié, on l'a beaucoup dit, mais c'est vrai, au souci qu'a Emmanuel Macron d'être sur deux fronts, c'est-à-dire le front sanitaire et le front économique. Il a ces deux crises à gérer et c'est ça qui... qui le fait réfléchir beaucoup avant de rebasculer dans un confinement que certains prônent effectivement et peut-être auquel on n'échappera pas, c'est vrai. Je pense que c'est vraiment la ligne de crête sur laquelle il est, c'est ça le vrai souci.
Emmanuel Ducrot, vous êtes d'accord avec ce que dit Anne Fulda ?
On n'a pas fait un tour d'année calendaire de cette épidémie. On ne sait pas comment elle se comporte. Enfin, moi, je veux rappeler que scientifiquement, on n'a pas des données sur une année entière avec la saisonnalité. Et que jusqu'à il y a une époque très récente, une partie de la communauté scientifique ne croyait pas à l'arrivée d'une deuxième vague.
Exactement.
Alors, on est tous en train, et le gouvernement compris, et vraiment, j'aimerais pas être dans ces bottes, en train d'apprendre en marchant à gérer quelque chose qui nous dépasse tous totalement. Il faut se rappeler ça quand même en arrière-fond, la prise de décision, elle est dictée par l'avancée de la connaissance scientifique de cette épidémie.
Et médicale. Et puis aujourd'hui, on prend des décisions sans savoir sur le long terme si leur effet ne sera pas finalement plus délétère que la maladie elle-même. Virginie Le Guay.
Les accusations de ceux qui disent que le gouvernement navigue à vue, parfaitement, il navigue exactement à vue, mais parce qu'il voit ce qu'il voit au moment où il le voit, donc il a du mal à anticiper, probablement ne croyait-il pas à la deuxième vague. La deuxième vague arrive, elle est plus forte que prévu, les hôpitaux lancent des signaux d'alarme depuis des semaines en disant qu'ils ne pourront pas bénéficier cette fois-ci des renforts des autres hôpitaux dont ils ont bénéficié lors du premier confinement, parce que le virus est répandu sur l'ensemble du territoire, donc ça va être chacun pour soi, donc tout le monde est un peu serré avec des effectifs, qu'il n'y a pas assez de personnel pour créer d'autres lits de réanimation. Donc oui, la situation va être tendue, que le gouvernement fasse, j'allais dire, au jugé ce qu'il estime devoir être le moins mal, et le pire pour lui serait effectivement le reconfinement, parce que l'économie ne s'en remettrait pas. D'ailleurs, elle ne s'en remet pas bien, là, du premier confinement. Avec tout ce qui se passe depuis la rentrée, l'économie repart pas bien. Donc l'arrêter par un deuxième confinement créerait des conséquences dont Emmanuel Macron ne veut en aucun cas. Est-ce qu'il pourra y échapper ? Je ne sais pas. Effectivement, on laisse filtrer l'idée de reconfinement locaux selon les évolutions des courbes. Mais on voit bien que c'est sa hantise de procéder à un second reconfinement. Mais si on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, il y a des très courts reconfinements qui sont décidés ici ou là.
Alors, il nous reste 3 minutes, les grandes voix. C'est passionnant tout ça, mais je voudrais que, comme chaque vendredi, pour celles qui le souhaitent en tout cas, il n'y a aucune obligation, vous nous livriez votre coup de cœur ou votre coup de griffe. C'est vous qui voyez qui veut commencer.
Je veux bien.
Emmanuel Ducrot. Emmanuel Ducrot, allez-y.
J'ai visité une exposition fantastique qui ouvre demain au pavillon de l'Arsenal, qui est un pavillon consacré à l'architecture et à l'urbanisme à Paris. Ça s'appelle Histoire naturelle de l'agriculture. C'est gratuit, c'est jusqu'au 28 février. Et pour les provinciaux qui ne pourraient pas être à Paris, il y a un livre. Ça raconte comment l'être humain s'adapte dans sa ville à son environnement. Et on apprend par exemple que la ville est née de la nécessité de stocker le blé et de produire de la bière. La ville est née de l'agriculture. On se pose la question de comment ramener l'agriculture. La ville en découle. On apprend aussi que la culture du petit pois qui naît autour de l'an 1000 et des protéagineuses rend les hommes plus costauds, les animaux plus costauds, et on commence à bâtir des cathédrales. Et on apprend aussi comment les villes se sont adaptées aux épidémies et comment elles vont devoir s'adapter au CO2. Et c'est absolument passionnant. C'est l'homme, son environnement, sa ville. Allez-y, c'est vraiment c'est un éclairage à hauteur d'homme de l'architecture.
Vous
c'est
nous avez donné envie, ouais. En tout cas, Emmanuel Ducrot. Virginie Le Guay, coup de cœur, coup de griffe ?
Alors, coup de cœur, et moi je m'adresse aux ceux qui vont être victimes ou plus ou moins consentants du couvre-feu. Foncez sur le site d'Arte, regardez le film qui s'appelle Les Héritiers de Marie-Claire Castichat, qui raconte l'histoire d'une professeure de lycée, d'une classe de seconde, une classe qui n'est pas si facile que ça, et qui leur propose de participer au concours national de la résistance et de la déportation. Les élèves disent « Oh là là, sûrement pas, d'abord ça ne nous intéresse pas et on ne sera pas capable. » Et tout le film, c'est l'histoire de cette aventure collective de cette classe d'adolescents qui ne sait pas très bien ce que c'est que cette période, qui la découvre au fur et à mesure de son travail. Et c'est un film drôle, passionnant, mais qui raconte beaucoup de ce qu'on peut faire avec des jeunes quand on veut vraiment leur faire comprendre l'histoire.
Et ça s'appelle « Les Héritiers ».
Et je trouve que ça s'adapte parfaitement à la situation actuelle.
Merci Virginie Le Guay. Il ne manque plus que vous.
Alors
Anne
moi
Fulda.
Je vous proposerai une lecture du livre L'ami impossible de Bruno de Stabenrath, dont on a pas mal parlé, qui est un très joli livre écrit par son ami d'enfance et qui raconte cette jeunesse à Versailles lorsque lui, Bruno de Stabenrath, était acteur dans l'hôtel de la plage, dans le film L'hôtel de la plage. Et il raconte avec beaucoup de tendresse ces jeunes années de Xavier Dupont de Ligonnès, et c'est très joliment écrit.
Donc un livre, un film, une exposition, trois
voilà,
coups de cœur qui vont nous permettre
voilà,
d'occuper notre week-end. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Merci. Merci les grandes voix, Emmanuel Ducrot, Virginie Le Guay et Anne Fulda de m'avoir accompagné ce soir sur Europe 1. On vous dit à très vite.
Europe 1, Isabelle Mieux.
Et on se retrouve dans quelques secondes avec le journal de 19h et puis on ouvrira comme tous les soirs le club des idées. Les cadres sont inquiets pour leur emploi. Les recrutements sont en chute libre. À tout de suite.